France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En biologie fondamentale, l'autophagie est un mécanisme qui permet la survie des cellules, ce qui rend son étude cruciale. Mais quels sont les enjeux de la recherche à son sujet ? Du grec auto, soi-même, et phagie, manger, c'est un processus qui permet à la cellule de digérer une partie d'elle-même pour se recycler. C'est le fameux « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Présente chez tous les organismes caryotes, du pissenlit au champignon en passant par l'éléphant, c'est un mécanisme vital. Elle intervient dans l'immunité, qu'elle peut même renforcer, et est étroitement liée au vieillissement. Certains y voient même la clé d'un élixir de jouvence. Face au cancer, elle est une épée à double tranchant, on la considère comme le yin et le yang de l'oncologie. Autophagie cellulaire, je me mange, donc je vis. Audrey Esclatine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université Paris-Saclay, présidente du club francophone de l'autophagie. Flavie Strapazon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche CNRS à l'Institut Neuromyogène. Et Pierre-Emmanuel Joubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université en immunologie. Merci à vous trois d'être là réunis autour de moi, autour de cette table en direct dans nos studios à France Culture. Et merci également à vous d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. Et merci également de nous suivre sur Blue Sky. Nous aussi, nous restons à votre écoute puisque d'ailleurs l'idée de cette émission nous a été soufflée par un internaute. Merci à lui qui se reconnaîtra. Retrouvez-nous donc sur notre compte @sciencecqfd. Alors quels sont les mécanismes et les fonctions de l'autophagie. Et en quoi peut-elle jouer un rôle dans les pathologies humaines, les maladies neurodégénératives, les cancers ? Nous avons une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre première archive, quand cette découverte est récompensée d'un prix Nobel. Nous sommes en 2016.
La semaine des Nobel a commencé. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Premier sur la liste, prix Nobel de médecine. Il est attribué à un japonais, Yoshinori Osumi. Sur quoi a-t-il travaillé, Véronique ?
Alors, c'est un biologiste japonais de 71 ans. Il est récompensé pour ses découvertes sur l'autophagie. L'autophagie, étymologiquement, c'est la capacité à se digérer soi-même. En fait, c'est un processus qui fait que la cellule est capable, en cas de besoin, d'éliminer certains éléments qui la composent ou même de les dégrader pour les recycler autrement. L'autophagie est décrite notamment quand on est privé de nourriture. C'est par ce mécanisme que le corps résisterait à la privation. L'autophagie fait que les cellules privées de nutriments vont aller puiser dans leurs propres ressources. L'autophagie permet aussi de lutter contre les infections car les cellules détruisent le microbe qui les agresse. Ce mécanisme a été découvert il y a une cinquantaine d'années et le Nobel 2016 a fortement participé à en décrire les caractéristiques. Il a contribué à montrer aussi en quoi l'autophagie peut jouer un rôle crucial dans des maladies comme le cancer ou même Alzheimer.
Voilà un extrait du journal de 13h de France Inter en 2016. Pardon, Audrey Esclatine, quelle est l'importance de ce mécanisme dans le monde vivant ?
Ben finalement, il y en a dans tout être vivant, alors on va dire eucaryote, c'est-à-dire qui possède un noyau, donc aussi bien chez les plantes que chez les animaux, et puis chez des animaux très simples, puisque là, si on parle des travaux du prix Nobel, lui, il avait mis en évidence tout ça dans la levure de boulanger.
Voilà comment une levure est entrée dans l'histoire. Flavie Strapazon, on peut dire en effet que l'autophagie, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel au maintien de l'homéostasie cellulaire et tissulaire, c'est-à-dire l'équilibre de la cellule.
Oui, tout à fait. C'est un mécanisme vraiment qui va être impliqué dans la dégradation et le recyclage de différents composants cellulaires, tels que des protéines qui ont besoin d'être éliminées, ou encore des organelles. Donc c'est vraiment un processus qui va permettre le maintien de cette homéostasie cellulaire et donc la survie des cellules.
Pour rebondir sur cette archive, Pierre-Emmanuel Joubert, comment on peut revenir sur cette levure qui est entrée dans l'histoire ? Comment justement cette découverte a-t-elle été faite ? 1990, hein, le japonais Yoshinori Osumi travaille en effet sur cette levure et c'est comme ça qu'il découvre hein, les bases un peu de ce phénomène.
Alors effectivement, l'autophagie a été découverte un petit peu avant, en 1960, effectivement. Mmh. C'était l'essor en fait de la microscopie électronique à cette époque. Donc c'est pour ça qu'on a découvert de nombreuses voies, de nombreux mécanismes à l'intérieur des cellules, dont ces fameuses vésicules autophagiques. Alors on savait qu'elles étaient là au niveau structurel, mais on ne savait pas trop comment elles étaient formées. Et ce sont vraiment les études donc du docteur Osumi, qui ont mis en évidence, structurellement, moléculairement parlant, comment ces vésicules ont été formées, Il a défini une vingtaine de protéines qui étaient impliquées dans ce processus-là. Depuis, il y en a d'autres qui ont été impliquées, mais la machinerie vraiment de ce processus a été découverte grâce à ces travaux sur la levure.
Alors ces travaux sur la levure, comme vous dites, d'abord, c'est ce Belge, Christian De Duve, qui a reçu un prix Nobel en 1974 et qui a visualisé l'autophagosome et le lysosome. Audrey Scalatine, on va avoir besoin de vous pour comprendre un peu quels sont justement le lysosome d'abord. C'est un petit organique, comment on pourrait le décrire?
Alors le lysosome, en fait, dans les cellules, on va prendre les cellules de mammifères, c'est la structure qui va être en charge de dégrader grâce à des enzymes. Donc c'est une petite vésicule avec une membrane qui est donc avec un pH acide et des enzymes vont pouvoir travailler à l'intérieur de ce lysosome pour dégrader. Et puis il va y avoir des pompes qui vont permettre de faire sortir ce qui va être les petites briques élémentaires vont ressortir du lysosome et se retrouver à l'intérieur de la cellule prêtes à être réutilisées.
Le lysosome, en résumé, c'est un peu le micro-estomac de la cellule?
Oui, en quelque sorte.
et l'autophagosome, comment on pourrait aussi décrire ce phénomène? Le sac poubelle?
Oui, alors c'est exactement une bonne image sur le sac poubelle. En fait, c'est un petit croissant de membrane qui va venir englober, enfermer ce qui a besoin à être dégradé. Et donc, une fois qu'il va se fermer, ce petit sac, sa grande particularité, c'est qu'il va avoir deux membranes enchâssées les unes dans les autres. Et son contenu va pouvoir, quand l'autophagosome va fusionner avec le lysosome, eh bien, ça va libérer le contenu du petit sac poubelle dans l'usine de recyclage.
Alors, on va revenir sur ces différentes fonctions, mais on peut dire qu'il y a trois différents types d'autophagie. Flavie Strapazon peut-être les décrire ensemble, justement, ces trois types qui diffèrent par le type de cargaison cellulaire qu'elles ciblent.
Tout à fait. Donc, on va parler en général de macro-autophagie lorsqu'on parle d'autophagie générale.
C'est dont on parle depuis tout à l'heure.
Donc là, le petit sac poubelle, il va venir englober des composants cellulaires de manière aléatoire, sans sélectivité. Ensuite, on a une autophagie qui va être sélective. Donc là, elle va être vraiment sélective pour des cargos spécifiques. Donc ça peut être vraiment une autophagie sélective pour des virus, bactéries. Dans ce cas-ci, on va parler de xénophagie. On peut parler également de mitophagie lorsque l'autophagie va être sélective de la dégradation de petits organelles qui sont fondamentaux pour produire de l'énergie dans nos cellules. Etc, etc. Je ne vais pas tous les citer. Et puis, on a un troisième type d'autophagie qui est la... Chaperone mediated autophagy. L'autophagie médiatée par les chaperones.
J'avais du mal en français.
CMA, voilà. Où là, les cargos, donc les éléments qui vont être dégradés, ont un petit motif qui va être reconnu. Donc, c'est vraiment spécifique pour ce type de cargo qui a un motif spécifique qui va être reconnu et envoyé au lysosome pour la dégradation.
La CM1 qui est en effet autophagie médiée par des protéines chaperones spécialisées dans la dégradation de protéines libres. Pierre-Emmanuel Joubert, la macro-autophagie, l'autophagie, elle se déroule en plusieurs étapes. On peut peut-être, on les a grossièrement un peu décrites, mais peut-être qu'on peut rentrer dans le détail justement avec les protéines en jeu.
Oui, alors tout à fait. Donc la macro-autophagie, c'est celle qui est la plus connue en termes de molécules. On peut considérer que c'est plutôt comme une chaîne de montage en fait de molécules. C'est des complexes protéiques qui se succèdent. Quand on parle de complexes protéiques, en fait, c'est l'association de plusieurs protéines entre elles pour avoir une fonction donnée. Donc on a par exemple le complexe d'initiation qui est à l'origine, qui est l'étape initiale, qui va donner le signal de départ, qui notamment implique la protéine qu'on appelle une protéine ULK1. Voilà, donc c'est le complexe d'initiation. Et ce complexe va aller activer d'autres complexes, notamment le complexe qu'on appelle de nucléation, qui est notamment composé d'une protéine très importante pour l'initiation du processus d'autophagie, qui est BCLIN1. Peut-être on en reparlera un peu plus tard. Et ce complexe en fait, d'initiation va s'insérer au niveau des membranes, qui sont en train d'être formées. Donc c'est pour former le sac, en fait, c'est vraiment des membranes. Ces membranes peuvent être d'origine diverse. On pense notamment au réticulum endoplasmique, qui sont des petites membranes à l'extérieur du nucléus, qui peut servir justement de support à cette vésicule autophagique. Et donc le complexe BCLIN1 va induire des modifications sur cette membrane, ce qu'on appelle des phosphorylations en fait, qui vont permettre le recrutement d'autres protéines autophagiques, et ce qui va faire grandir en fait cette membrane en formation, ce sac en formation. Dans ce cadre-là, il est appelé le phagophore.
Ça, c'est la seconde étape, c'est l'élongation.
L'élongation, tout à fait. Ouais. Et alors, l'élongation, il y a plusieurs, encore une fois, complexes protéines qui sont impliqués. Il y en a deux. Un complexe dépendant de la protéine ATG5 et un autre qui est très importante, qui est dépendante de la protéine LC3. C'est très important en recherche parce qu'on utilise beaucoup cette protéine comme marqueur de l'autophagie. On en parlera peut-être par la suite. Et puis, cette LC3, comme l'a dit Flavie tout à l'heure, elle permet aussi de cibler spécifiquement certaines protéines dans le cytoplasme. Parce que ces protéines expriment des petits signaux, qui sont en fait des ubiquitines, qui peuvent être captées par cette protéine LC3, par l'intermédiaire de protéines qui font le pont en fait, entre LC3 et P62, enfin, et la protéine. Et ça permet de cibler spécifiquement en fait, ces cargos dans les autophagosomes. Une fois que l'autophagosome est formé, il a fini, là on passe à la phase de maturation, c'est-à-dire que l'autophagosome va fusionner avec les lysosomes, comme on l'a expliqué précédemment, pour effectivement dégrader les composés qui sont à l'intérieur et les recycler dans le cytoplasme.
Audrey Esclétine, pour compléter ou pour prolonger, je voyais me sourire.
Vous voulez que je complète par rapport à ça? Effectivement, il y a toute une machinerie et c'est finalement ça qui a fait évoluer donc de ce qu'on parlait de l'époque de Christian de Duve dans les années 70, qui avait vu par microscope électronique mais qui comprenait pas comment ça fonctionnait. C'est justement la découverte qu'il a faite, c'est ça, c'est qu'il a pu identifier chez la levure toutes ces protéines dont a parlé Pierre-Emmanuel qui vont permettre les différentes étapes du processus.
Quant à Yoshinori Osumi, lui, il découvre en effet les gènes ATG, ATG pour autophagie related gene, j'ai toujours un accent en anglais terrible. Ces gènes-là, Flavie Strapozon, on a aussi vu qu'ils interviennent dans d'autres mécanismes pour d'autres trucs.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment la beauté de la découverte du professeur Osumi, c'est d'avoir utilisé la levure, donc un organisme très simple, et il est allé, en fait, créer des mutations de manière aléatoire dans cet organisme, et il a observé le mécanisme de l'autophagie, et c'est ce qui lui a permis vraiment de découvrir toute cette série de gènes, une quinzaine, une vingtaine de gènes ATG. Et tous ces gènes sont vraiment fondamentaux, aussi bien pour la phase d'initiation jusqu'à la phase de maturation des autophagosomes. Donc c'est la machinerie essentielle pour l'autophagie.
Alors historiquement, l'autophagie a été identifiée comme une réponse au stress nutritionnel cellulaire. C'est-à-dire comment l'autophagie permet-elle la survie de la cellule en période de disette, justement, Audrey Esclétine?
En fait, c'est tout simple, ça découle de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que quand on met l'organisme en carence nutritive, on va avoir besoin de fabriquer donc de l'énergie et des éléments indispensables. Donc les protéines, c'est une succession d'acides aminés. Donc si on dégrade des protéines qui, à un instant T, sont pas utiles par ce mécanisme, on va pas juste les dégrader, on va les détruire et les rendre... Enfin, ça va devenir des briques essentielles d'acides aminés. Et ces acides aminés, ils vont être relargués dans la cellule pour à nouveau fabriquer de nouvelles protéines. Donc ça lui permet de, lorsqu'il y a un stress nutritionnel, de s'adapter et de à nouveau pouvoir fabriquer des protéines. Et aussi ça peut lui permettre de générer de l'énergie.
Donc voilà, donc sans, c'est l'autophagie qui permet à la cellule de survivre en recyclant une partie de ses composants cellulaires quand il n'y a pas de nutriments qui sont apportés de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Mais alors ça, l'autophagie, ça permet à des cultures de résister comme ça, sans nutriments, pendant combien de temps?
C'est une bonne question. Alors, ça va dépendre de quel est le type d'organisme dont on parle. Mais si on reprend les études qui ont été faites par Osumi, en fait, c'est ça qu'il a fait pour découvrir si c'était des gènes qui étaient indispensables à l'autophagie. Il a enlevé le gène et il a mis les levures en carence et il a regardé celles qui mouraient et celles qui survivaient. Celles qui survivaient, c'était qu'elles avaient toute l'autophagie qui fonctionnait. Celles qui mouraient en quelques jours, ça veut dire qu'on avait enlevé un des gènes indispensables de l'autophagie en faisant ce mécanisme.
Pierre-Emmanuel Joubert?
Oui, on pourrait rajouter le fait que l'autophagie est effectivement un mécanisme de survie cellulaire. Par contre, on sait que si la carence, le stress est prolongé dans le temps ou est trop forte, l'autophagie peut aussi interagir avec les mécanismes de mort programmée cellulaire. Et dans ce cas-là, on a un shift dans la cellule qui fait que la cellule passe de survie à mort cellulaire.
Voilà, bon, on parle de conditions de stress, mais quand tout se passe bien, sans période de disette, en conditions normales, dans un contexte sain, Flavie Strapazon, quand tout va bien, l'autophagie, ça se passe comment ?
Eh bien, quand tout va bien, on appelle ça une autophagie basale que nos cellules utilisent. C'est vraiment pour, de nouveau, pour assurer l'homéostasie des cellules et assurer le contrôle qualité des organelles, d'éliminer des protéines qui sont, qui pourraient s'accumuler de manière anormale. Donc, elles participent vraiment à la santé de la cellule.
Et quand et puis il y a d'autres périodes de stress aussi, hein, permet la survie de la cellule dans d'autres contextes comme la diminution de taux d'oxygène, des infections, des lésions. Alors justement, quel rôle joue-t-elle dans l'immunité ? On poursuit.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Audrey Esclatine, Pierre-Emmanuel Joubert et Flavie Strapazon, nous parlons d'autophagie cellulaire, quand nos cellules s'autodigèrent pour survivre. On vient de voir que l'autophagie joue un rôle d'entretien cellulaire, elle dégrade les protéines altérées, elle recycle les organites endommagés comme les mitochondries par exemple. Elle est également, Audrey Esclatine, indispensable au développement.
Oui, alors tout à fait. Il y a des études qui ont été faites, notamment chez les mammifères, c'est-à-dire qu'on a essayé de créer des animaux qui ne faisaient pas d'autophagie. Donc on a enlevé un gène absolument indispensable de l'autophagie, on a regardé ce qui se passait. Et alors d'abord, ça dépend des gènes. Il y a certains gènes qui vont carrément empêcher l'animal de se former, mais dans certains cas, l'animal arrivera jusqu'à la naissance, mais son développement ne sera pas complet et cet animal il survivra pas à l'autophagie. Donc en fait, on ne sait pas faire de mammifères qui sont complètement déficients en autophagie, tellement c'est un processus absolument primordial.
Ah, Flavie Strapazon, je vous vois acquiescer.
Tout à fait, non. Pour préciser, peut-être plus, maintenant on sait que l'autophagie est importante au cours du neurodéveloppement, en particulier est impliquée dans la migration, dans la neurogénèse, donc c'est vraiment un mécanisme crucial pour le développement en général et pour le neurodéveloppement.
J'ai aussi lu qu'elle jouait un rôle également dans la dégradation du spermatozoïde après la fécondation.
L'histoire dont vous faites allusion, c'est en fait lors de la fécondation, le spermatozoïde va rencontrer l'ovule et donc il va y avoir fécondation, formation d'un œuf. Et là, on a des mitochondries paternelles et des mitochondries maternelles. Et ce qui se passe, c'est que nous ne conservons que les mitochondries maternelles. Et l'autophagie, parce que donc tout à l'heure Flavie l'a décrite, l'autophagie elle peut permettre de sélectivement dégrader des mitochondries, et donc ce qui va se passer c'est qu'on a vu, alors c'est pas dans absolument tous les organismes, mais ça a été notamment montré chez le nématode à l'origine, eh bien il y a une reconnaissance spécifique des mitochondries paternelles qui sont dégradées pour ne conserver que les mitochondries maternelles.
Alors là, on parle du développement, mais l'autophagie aussi des liens avec l'apoptose, cette petite mort cellulaire. Hein, chacune des cellules de notre corps possède cette capacité d'autodestruction. Ce suicide cellulaire programmé fait partie intégrante de la vie. Il sert d'équilibre à l'organisme. Il tient un rôle protecteur fondamental. C'est une découverte qui date de 1972.
Alors je m'intéresse à l'apoptose pour deux raisons, parce que pour des raisons positives et négatives, comme la plupart des médecins qui s'intéressent à ce même problème, pour la bonne raison que l'apoptose peut à la fois expliquer des maladies et à la fois donner une solution thérapeutique. Expliquer les maladies dans ce sens que l'apoptose peut expliquer pourquoi une population cellulaire normale disparaît. Et c'est le mécanisme qui a été évoqué, par exemple, pour la fameuse sous-population des cellules T4 auxiliaires au cours du sida, où on a dit que c'était ce mécanisme qui expliquait la disparition progressive des cellules. Et si on étudie l'apoptose, Si on étudie, c'est le même mécanisme qui se produit. Ce sont des mécanismes stéréotypés, biochimiques et morphologiques qui sont retrouvés dans chaque cas d'apoptose, quelle que soit l'origine de l'apoptose. Et dans un deuxième temps, au contraire, l'effet est inverse, c'est-à-dire c'est un effet positif dans la mesure où, grâce à des traitements qui peuvent être soit des rayons, soit des chimiothérapies ou des médicaments chimiques non chimiothérapiques, à ce moment-là, on peut induire volontairement une apoptose sur une population cellulaire qui est anormale et qui prolifère. Et dans ce cas-là, c'est un bénéfice qu'on recherche au contraire, et c'est dans ce sens que ici au laboratoire on étudie certaines maladies hématologiques où on essaie d'obtenir l'apoptose des cellules, on cultive in vitro des cellules anormales pour essayer de tester des médicaments ou des substances pharmacologiques ou des interleukines qui peuvent induire ce genre de phénomène.
La voix d'Hélène Merle-Béréal, chef du laboratoire d'hématologie à la Salpêtrière, et un extrait de l'émission Perspectives scientifiques sur France Culture en 1995. Alors, Pierre-Emmanuel Joubert, pour rebondir sur cette archive, comment l'autophagie peut-elle sauver la cellule de la mort par apoptose ?
Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs connexions moléculaires directes entre les protéines de l'autophagie et les protéines apoptotiques. Notamment au niveau de la protéine Bclina, comme on parlait tout à l'heure, qui s'associe à une protéine anti-apoptotique qui s'appelle BCL2. Donc on a des liens comme ça directs, qui fait que quand l'autophagie est activée, l'apoptose va être inhibée, et inversement. Et puis le fait aussi que l'autophagie puisse aller prendre en charge et dégrader certains protéines impliquées dans la mort cellulaire apoptotique, notamment les caspases. Il a été montré que l'autophagie peut englober les caspases 8 ou 9 pour les dégrader et empêcher ainsi la mort apoptotique.
Audrey Esclatine, donc ça veut dire que l'autophagie peut inhiber l'apoptose et offrir un sursis à la cellule?
Exactement, c'est-à-dire que finalement, comme c'est un mécanisme qui va gérer le stress, en quelque sorte, ben cette gestion de stress, tant que le stress n'est pas trop important, l'autophagie va être suffisante pour réparer certains dommages. Donc ça peut être des dommages à l'ADN, ça peut être des mitochondries endommagées, par exemple, qui sont un petit peu le berceau d'un certain déclenchement de l'apoptose. Et donc cette autophagie, elle va réussir à contrôler jusqu'à un certain point. Si le stress est trop prolongé ou trop fort, alors elle va s'éteindre et c'est l'apoptose qui va entraîner la mort de la cellule. Il vaut mieux que la cellule meure et que l'organisme reste vivant. Donc elle va en quelque sorte se suicider pour permettre à l'organisme pluricellulaire de survivre.
Et pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous recommande de podcaster notre épisode « Apoptose, mourir peut attendre ». Nous y avons consacré une heure pour bien comprendre ce phénomène assez complexe. Maintenant, du côté de l'immunité, quel rôle joue l'autophagie dans l'immunité? Par exemple, les virus, les bactéries, quand ils rentrent dans la cellule? Audrey Esclatine, c'est un sujet sur lequel vous travaillez.
Oui, alors, sur l'autophagie, en fait, pour les bactéries, la plupart du temps, les bactéries, elles ne rentrent pas à l'intérieur des cellules. Donc, certaines bactéries sont ce qu'on appelle intracellulaires. Elles vont vraiment pénétrer dans la cellule. En revanche, tous les virus, ce sont des parasites obligatoires. Eux, ils vont forcément rentrer dans la cellule. Donc, on a expliqué, en fait, ce croissant de membrane, assez simplement, ce croissant de membrane, s'il reconnaît une bactérie ou un virus, il va pouvoir l'entourer, former un autophagosome, et ça peut entraîner de la dégradation. Donc ça, on a appelé ça de la xénophagie, de xénos, le grec, l'étranger. Donc c'est plus vraiment de l'autophagie, c'est plus de la digestion de la cellule, c'est de la digestion de ce qui est rentré dans la cellule et qui ne doit pas y rester. Mais les micro-organismes, bactéries, virus, ils sont pas restés là, les bras croisés, en attendant que ça se passe. Eux, ils ont développé leur propre mécanisme pour soit lutter, empêcher d'être dégradés, donc ils vont empêcher la fusion de l'autophagosome et du lysosome, par exemple, pour pas être dégradés, ou carrément, ils vont utiliser ces membranes pour fabriquer d'autres choses, pour les usurper ces membranes. Donc c'est plutôt là-dessus que moi je travaille.
Voilà, ouais, comment les virus détournent l'autophagie, comment ils les utilisent à leur profit. Les virus, c'est grand voleur, Audrey Esclatine. D'ailleurs, par exemple, c'est le virus de l'herpès qui fonctionne comme ça.
Ben oui, alors ce que nous on a montré, en fait, c'est que finalement, ces membranes, elles pouvaient être utilisées pour fabriquer le virus et puis pour l'aider à sortir également des cellules. Alors nous, et puis d'autres, hein, ça a été décrit pour plusieurs virus, ce système-là.
Et dans quelle mesure également l'autophagie permet de booster le système immunitaire ?
Alors ça peut booster le système immunitaire parce que ça va contribuer à mieux présenter, donc ce qu'on appelle la présentation des antigènes. Alors peut-être que Pierre-Emmanuel sera plus calé que moi pour en parler, mais en fait ça va permettre de préparer des protéines et de les associer avec ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc ça permet en fait de présenter à la surface de la cellule un petit peptide qui va être reconnu par le système immunitaire.
C'est ça, c'est qu'il y a pas la xénophagie n'est pas la seule façon dont l'autophagie intervient dans l'immunité, Pierre-Emmanuel Joubert.
Non, effectivement. Donc, il y a tout ce qui est présentation antigénique. Il faut savoir que l'une des particularités, justement, de l'autophagie, c'est qu'elle permet de prendre, de capturer des protéines qui sont dans le cytoplasme, dans le cytosol, et de les mettre dans les compartiments vésiculaires. Donc, les vésicules autophagiques, c'est un compartiment vésiculaire. Et il se trouve qu'en fonction de là où sont présentes les protéines, est-ce qu'elles sont dans le compartiment vésiculaire, est-ce qu'elles sont dans la cellule, elles ne sont pas présentées exactement de la même façon. Elles ne sont pas présentées par les mêmes complexes. Justement, CMH, on a deux classes. Et l'autophagie a ce pouvoir un peu de changer les protéines, de les faire passer intracellulaires au niveau vésiculaire. Ce qui fait qu'il y a une plus grande variété d'antigènes qui vont être présentés par la cellule immunitaire. Et cette présentation est extrêmement importante pour l'activation, notamment des lymphocytes impliqués dans la réponse antivirale, impliqués dans la réponse antitumorale, etc. Donc il y a ce phénomène de présentation, et il y a aussi quand même le fait que sans autophagie fonctionnelle, les cellules immunitaires ne fonctionnent moins en fait. Elles sont moins performantes, elles sont moins fonctionnelles. Que ce soit au niveau des lymphocytes qui sont des cellules tueuses, que ce soit au niveau des cellules qui présentent justement cet antigène, sans autophagie, la fonctionnalité immunitaire est réduite.
Alors voilà, on voit quand même que ce soit de l'ordre du développement, de la mort cellulaire, de l'immunité. On peut maintenant parler du vieillissement. Flavie Strapazou, on voit que chez tous les animaux, ce qu'on observe, c'est que ce processus va moins bien marcher avec l'âge. L'efficacité de l'autophagie décroît avec l'âge, ce qui limite le nettoyage de la cellule. Mais on s'est demandé si c'était la conséquence ou la cause de la vieillesse.
Très bonne question. Lors du vieillissement, c'est vrai que les cellules vont se détériorer progressivement. Parmi cette détérioration, il va y avoir une accumulation du stress oxydatif. On va avoir des protéines qui vont s'accumuler au sein des cellules qui vont devenir toxiques. On va avoir également une inflammation chronique qui va s'installer. Ceci, c'est souvent dû au fait que les cellules vont rentrer en senescence, donc vont arrêter de se multiplier, elles vont sécréter des facteurs pro-inflammatoires. Donc il y a une inflammation chronique qui va se générer. Donc là, on parle de vieillissement classique. Et ce qui accompagne ce vieillissement de la cellule, c'est un déclin, comme vous venez de le dire, de l'autophagie, qui n'est pas une conséquence. C'est vraiment, on sait qu'avec l'âge, par exemple, on a une réduction de la fonctionnalité des lysosomes, donc la dégradation lysosomiale est beaucoup moins efficace. Ceci est dû à des réductions d'efficacité de facteurs transcription. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a vraiment le processus qui est réduit. On a aussi l'expression des gènes ATG découverts par le professeur Ochumi qui sont réduites, fortement réduites. Donc la machinerie autophagique est moins efficace.
Alors si maintenant on arrivait à maintenir un niveau d'autophagie élevé, Audrey Esclatine, est-ce qu'on pourrait allonger l'espérance de vie ?
Eh oui, on a joué aux apprentis sorciers et c'est ce qu'on a fait. Donc soit on a artificiellement fait exprimer des gènes de l'autophagie, soit on a donné des drogues qui stimulaient l'autophagie et on a vu qu'on pouvait faire vivre plus longtemps les animaux. Alors c'est très impressionnant.
Par exemple ?
Alors on l'a montré chez un petit ver, un hématode qui s'appelle C. elegans, où il y a eu beaucoup d'études sur l'autophagie, mais on l'a montré chez la mouche, on l'a montré aussi chez la souris, et on a quand même des éléments qui laissent penser que ça fonctionne pareil chez l'homme. C'est-à-dire que si on stimule l'autophagie, on vieillit mieux. Je ne sais pas si vraiment on peut démontrer qu'on vieillit plus longtemps, mais on vieillit mieux.
Oui. En effet, chez la drosophile, ça a allongé la vie de la drosophile de plus de 30%. C'est énorme, la vie, Strapazou.
Oui, oui. Alors, chez la drosophile, également chez les rongeurs de 3 mois. Donc, il faut savoir qu'un rongeur vit entre 24 mois, on va dire. Donc, 3 mois, c'est beaucoup. Ce serait l'équivalent de... C'est très dur de faire la comparaison, mais voilà, peut-être 9-10 ans chez l'homme. Donc, c'est vraiment un gain... assez exceptionnel, oui.
Audrey Esclatine,
Vous parliez tout à l'heure de cet élixir de jouvence. Si on est capable de stimuler l'autophagie, peut-être serons-nous capables de vivre plus longtemps.
On va maintenant parler des liens entre autophagie et maladies neurodégénératives. Et puis, on a aussi dit quel est le yin et le yang des cancers. L'autophagie est à la fois un mécanisme qui empêche le développement de cellules tumorales et en même temps qui favorise leur survie. Alors comment ce mécanisme peut-il aider les cellules cancéreuses à mieux survivre? Et comment s'explique ce rôle ambivalent en oncologie? Restez avec nous. Digestion de Fleischmann Bernard en direct sur France Culture, car nous parlons d'une digestion timide, d'un mécanisme cellulaire clé, l'autophagie. On en parle avec nos trois invités du jour, Audrey Esclatine, professeure à l'Université Paris-Saclay, présidente du club francophone de l'autophagie, Flavie Strapazon, chargée de recherche CNRS à l'Institut Neuromyogène, et Pierre-Emmanuel Joubert, maître de conférence à Sorbonne Université en immunologie. On vient de voir que l'autophagie est un mécanisme de dégradation des composants cellulaires indispensables à la survie de la cellule. Mais ses fonctions vont au-delà du nettoyage ou de la survie en conditions de stress. Elle est impliquée dans l'immunité, et on va le voir, dans les maladies neurodégénératives et le cancer. Du côté des maladies neurodégénératives, Flavie Strapazon, on n'a pas encore tout à fait évoqué l'agréphagie. L'agréphagie, c'est cette autophagie sélective, et c'est cette forme d'autophagie qui fait défaut dans les maladies neurodégénératives, c'est ça?
Oui. Pas que. Effectivement, donc les maladies neurodégénératives sont des maladies bien évidemment multifactorielles, hein, mais elles sont, comme on le sait tous, liées souvent à l'âge.
Et à Alzheimer, Parkinson.
Tout à fait, les plus communes, voilà, Alzheimer, la maladie de Parkinson, c'est des maladies qui ont une caractéristique commune, c'est l'accumulation de protéines. Alors ça va pas être la même protéine, ça va pas être dans les mêmes types de neurones, mais le résultat, c'est qu'il y a des protéines qui s'accumulent et qui vont devenir toxiques pour les neurones, et ça va induire une neurodégénérescence, donc la mort des cellules nerveuses. Et effectivement, l'agréphagie, c'est l'autophagie sélective qui est dédiée pour éliminer les protéines agrégées. Donc oui, l'agréphagie est altérée. L'autophagie aussi des mitochondries. Donc on a aussi une accumulation de mitochondries endommagées dans les neurones de patients atteints de ces maladies. Donc on a vraiment beaucoup plus de conséquences que la simple agréphagie. On a une accumulation aussi des mitochondries, donc stress oxydatif qui va se développer. Les protéines toxiques qui vont favoriser la mort des neurones.
Voilà, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, on a l'accumulation de bêta-amyloïdes ou de la protéine tau, ces protéines tau qui forment des agrégats toxiques dans les neurones, qui entraînent du coup un défaut de communication neurone-neurone en plus de la toxicité des agrégats. Audrey Esclatine, en effet, l'autophagie sélective décline aussi avec l'âge.
Oui, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Oui, effectivement, l'autophagie, toutes les formes d'autophagie vont décliner avec l'âge. Donc, effectivement, les maladies neurodégénératives, elles sont liées avec l'âge. Donc, l'autophagie diminuant avec l'âge, l'autophagie sélective va aussi diminuer avec l'âge.
Est-ce que c'était piste de traitement, Flavie Strapazon ?
Tout à fait. L'autophagie est vraiment une cible thérapeutique au jour d'aujourd'hui très, très prometteuse. Il n'y a pas encore d'essais cliniques qui ont démontré encore son efficacité. Par contre, chez les rongeurs, dans les modèles animaux, on a vraiment de très, très bonnes données qui démontrent que la stimulation de l'autophagie également sélective, réduit ces agrégats de protéines et donc a un effet bénéfique sur la survie des neurones.
Oui, j'ai lu qu'on travaille sur des récepteurs autophagiques qui peuvent lier les mitochondries et les agrégats, par exemple les protéines de Tau, et permettre une autophagie sélective plus complète, c'est ça ?
Tout à fait. Là, c'est vraiment sur quoi je travaille actuellement. On travaille sur un récepteur, donc une protéine qui va reconnaître les protéines endommagées. Les protéines, accumulées, parce qu'elles sont pas, elles sont endommagées, elles sont modifiées, on va dire. Et ces mitochondries endommagées, donc le double cible, donc double efficacité, si on arrive à stimuler ces protéines récepteurs.
En parlant de cibles thérapeutiques du côté du cancer, Pierre-Emmanuel Joubert, on voit que l'autophagie tient un rôle ambivalent.
Alors oui, l'autophagie tient un rôle ambivalent. En fait, on pourrait pas dire qu'il est ni positif ni négatif, il est contextuel dans le cadre du cancer. Mmh. Il est contextuel parce que si on prend les différentes étapes, en fait, l'autophagie peut avoir différents rôles. Lorsqu'on prend la transformation tumorale, une cellule saine devient une cellule tumorale lorsqu'elle accumule des mutations dans la cellule. Il faut que ce soit des mutations assez ciblées, des mutations notamment dans les processus de mort cellulaire, c'est pour ça que ce sont des cellules immortelles. Et également des mutations au niveau des mécanismes de réplication, c'est pour ça qu'elles se répliquent sans arrêt. Eh bien, l'autophagie, de par son rôle dans le recyclage en fait de composants, notamment des composants qui peuvent induire des stress oxydatifs et donc des dommages à l'ADN, l'autophagie protège un petit peu l'apparition de mutations. Et donc, dans ce sens-là, l'autophagie est considérée comme un mécanisme suppresseur de tumeur. Ceci étant dit, lorsque la tumeur, elle est là, elle est maligne, elle est développée, eh bien, c'est un rôle tout autre. L'autophagie, dans ce cadre-là, favorise la survie et la prolifération des cellules tumorales. Il faut bien vous imaginer qu'une cellule tumorale, c'est pas une cellule qui est isolée, notamment dans les tumeurs solides, ça forme des masses. Et donc, on comprend bien que les cellules qui sont à l'intérieur de ces masses, elles vont avoir quelques difficultés à aller trouver des nutriments, de l'oxygène, pour pouvoir survivre. Il faut aussi vous imaginer que cette masse tumorale, elle n'est pas isolée. Hein. Elle est dans ce qu'on appelle un micro-environnement tumoral. Et finalement, ce micro-environnement tumoral, il ne va pas être très bénéfique pour la survie et la prolifération des cellules. Pourquoi ? Parce que les cellules tumorales vont notamment récupérer beaucoup de nutriments, elles consomment beaucoup de glucose, par exemple, et donc ce micro-environnement va être assez pauvre en glucose. Au fil du temps aussi, cet environnement va s'acidifier. Et donc ça, c'est pas un environnement qui est très, très efficace pour la prolifération et la survie des cellules. C'est pour ça que les cellules tumorales utilisent le processus autophagique pour pouvoir survivre dans des conditions de stress et se répliquer. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est une fois que la masse tumorale est formée, il y a certaines cellules tumorales qui vont se détacher, hein, et qui vont les migrer pour former ce qu'on appelle des métastases. Ben, le fait de se détacher, c'est très nocif pour les cellules. Ça induit beaucoup de morts cellulaires. Là encore, l'autophagie protège ces cellules, les cellules tumorales, lorsque la cellule-ci se détache. Et si on continue et on finit la boucle, lorsque les cellules vont migrer et vont aller fabriquer des métastases, là encore, l'autophagie va être activée pour induire la survie et la prolifération des cellules.
Audrey Esclatine, justement, sur cette épée à double tranchant.
Ben oui, alors, et la dernière chose, c'est que le cancer, on va essayer de le soigner. Donc, on va traiter en utilisant des drogues qui sont cytotoxiques, dont le but, c'est de tuer les cellules. Donc, c'est une forme de stress. Et donc, lorsque ces cellules cancéreuses sont traitées, eh bien, elles vont activer leur processus autophagique et ça va leur permettre de résister à notre traitement. Donc il y a un certain nombre de recherches qui sont faites où là l'idée c'est de combiner des anticancéreux avec des inhibiteurs de l'autophagie pour empêcher les cellules cancéreuses de résister au traitement qu'on est en train d'essayer de leur donner.
Eh bien ces recherches, allons les voir justement de plus près avec notre reportage du jour. L'autophagie, c'est donc un processus intracellulaire essentiel au maintien de l'homéostasie dans un organisme sain. Mais en cas de cancer, elle peut au contraire induire des effets néfastes en favorisant la survie des cellules tumorales. Et on continue d'en parler avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allée au Centre de recherche des cordeliers de Sorbonne Université pour comprendre ce phénomène ambivalent.
Et oui, on l'a dit, hein, parfois les cellules cancéreuses peuvent détourner l'autophagie à leur avantage pour favoriser leur croissance ou bien pour résister au traitement. L'enjeu serait donc de parvenir à moduler l'autophagie pour améliorer l'efficacité des thérapies. Inès Akrouf, doctorante dans l'équipe Inflammation, Compléments et Cancer, étudie justement l'influence du sécrétome des cellules du cancer bronchique, non à petites cellules, en se focalisant sur deux acteurs clés, les vésicules extracellulaires et les particules extracellulaires non vésiculaires, des connaissances qui amènent aussi à identifier des biomarqueurs d'intérêt pour des futures thérapies.
Là, c'est la salle des machines. Ça, c'est généralement où on va trouver les congélateurs.
Stockage de produits chimiques.
C'est ça, et il y a les produits chimiques aussi.
On a des immenses frigidaires.
Ouais, c'est ça. Mais c'est là où on va garder tout ce qui est nos cellules, nos échantillons, etc. Il faut les garder au moins 80.
Moins 80 degrés.
Les cellules, généralement, on peut les garder jusqu'à, on va dire, je pense à peu près, il me semble que c'est 10 ans, je ne suis pas trop sûre. Mais 10 ans, moins 80, mais sinon il est préférable quand on congèle des cellules. On les met d'abord à congeler ici, doucement, et ensuite on les fait descendre en bas à l'azote à moins 196 degrés pour les garder le plus longtemps possible. Notre équipe, elle a démontré, et notamment Pierre-Emmanuel Joubert, a démontré justement que l'autophagie intrinsèquement permettait à la cellule cancéreuse d'être résistante aux immunothérapies et aux thérapies, et en même temps que plus l'autophagie était augmentée ou élevée chez ces patients-là, plus le pronostic était mauvais. Donc, ils ont déterminé ce rôle intrinsèque de l'autophagie. Par exemple, les vésicules autophagiques, notamment les autophagosomes, pouvaient interagir avec les structures vésiculaires du système endosomal, qu'on appelle les corps multivésiculaires. Donc, en gros, ces endosomes vont être. Ces corps multivésiculaires font partie du système endosomal. Et en gros, c'est à la fin, ça va donner des exosomes. Mais récemment, il a été démontré que justement l'autophagosome va pouvoir interagir avec ses corps multivésiculaires pour créer une nouvelle structure qu'on appelle emphysome, une structure qui peut sécréter des composants à l'extérieur, ce qu'on appelle un emphysome sécrétoire. Donc on peut dire que l'autophagie, elle est clairement liée aussi avec le système sécrétoire. En même temps, il y a les protéines de la machinerie autophagique qui peuvent être retrouvées sur des vésicules extracellulaires. En gros, c'est une protéine qui s'appelle LC3 qui est très importante dans le système de l'autophagie et qui va être sur ces membranes de ces exosomes. Donc, on peut dire que la machinerie autophagique
est complexe
et clairement, elle peut avoir des liaisons justement avec ce système sécrétoire.
Et de quelle manière, par quelle méthode, peut-être en mobilisant même ces entités-là, on peut arriver à examiner ces processus sur ces particules extracellulaires non vésiculaires et les vésicules intracellulaires.
Alors nous, ce que je fais moi en ce moment, donc j'ai des cellules qui sont autophagie compétentes, des cellules malignes qui sont des A549, c'est un modèle du cancer du poumon en petite cellule que j'utilise. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai des cellules contrôle, donc des cellules voilà, exactement. Et en même temps, j'ai des cellules qui sont, ou quelques gènes qui sont impliqués dans l'autophagie ou protéines autophagiques sont déplétés. Par exemple, la TG5. Alors, j'ai des cellules qui sont ATG5 KO, donc qui n'ont pas qui ne codent pas ce gène-là et donc ils ne produisent pas cette protéine. Et j'ai des cellules qui, je travaille sur les ATG5 KO, j'ai les UVRAC KO, c'est une autre protéine aussi qui intervient dans l'autophagie, et des cellules Becklin 1 KO. Donc elles interviennent à différents niveaux, comme Becklin 1, elle intervient au début de l'autophagie, et ATG5, elle intervient au milieu de l'autophagie. Donc juste à côté, si vous voulez, je peux vous montrer ce que je peux utiliser comme...
Alors ça, c'est la salle où vous travaillez.
C'est ça, c'est la salle de culture, exactement. C'est là où je fais ma culture cellulaire. Donc on a des PSM à l'intérieur, donc c'est les endroits où on garde la stérilité pour travailler dans un environnement stérile.
C'est pour ça qu'on ne peut pas y pénétrer comme ça.
Oui, en fait, c'est un peu compliqué. Il faut avoir une formation, etc. Je peux juste te montrer là, par exemple. À gauche, c'est des flasques où je fais ma culture.
Okay.
C'est à peu près... Ah, c'est la même chose. Là, c'est notre stock. D'accord. Donc, c'est là où je vais.
On les conditionne là-dedans, hein, oui.
C'est ça, exactement.
On peut manipuler pendant combien de temps une fois qu'on les met en culture, ces cellules?
Les cellules peuvent durer, parce que c'est un passage de cellules. Donc, par exemple, chaque 2 jours, il faut trypsiner. Donc, on va détacher les cellules de leur du plastique en bas, et ensuite on va changer de milieu. Changer de milieu, justement, parce que une fois que les cellules, elles prolifèrent, en fait, elles vont produire des substances, en fait, qui vont rendre le milieu acide, et donc elles vont manquer de nutriments, etc. C'est pas bien bon. Donc, à chaque fois, on va dire chaque 2 jours, maximum 3 jours, ça dépend des types cellulaires, on va renouveler le milieu. Donc, quand on décongèle, par exemple, les cellules, ça dépend de la densité des cellules qu'on a dans nos petites créules, mais généralement, on commence avec des petites flasques. Et ensuite, on passe à celle-ci. Et à la fin,
les grosses.
On est sur des grosses. Il y en a des plus grosses que ça, mais moi, j'en utilise pas.
Et avec quel type d'instrument optique vous observez les mécanismes au niveau cellulaire?
C'est des microscopes...
Classiques.
Voilà, classiques. On a des microscopes qui sont plus performants, mais en vrai...
C'est pas nécessaire à ce stade.
Non, pas du tout.
En quoi toutes ces recherches au niveau très fondamental qui éclairent ces phénomènes peuvent ouvrir des pistes thérapeutiques dans le cas de l'adénocarcinome, par exemple, ou d'autres cancers?
Alors oui, pour parler de thérapie, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même un système, c'est un mécanisme très important pour la cellule, donc jouer sur l'autophagie, c'est un peu compliqué. Après aussi, je trouve que mon projet est assez fondamental pour le moment, donc pour parler de recherche clinique, etc., en tout cas, pour mon projet, pour le moment, je trouve que c'est beaucoup plus fondamental, mais c'est quand même très intéressant de comprendre comment ces deux mécanismes interagissent, quelle est la relation entre ces deux mécanismes.
Merci Céline Lausanne. Nos reportages qui nous font sortir du studio pour découvrir le travail de la recherche scientifique en cours, c'est notre collection La Science au Labo, et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Flavie Strapazon, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, alors c'est vraiment... l'étudiante a très bien précisé, c'est de la recherche vraiment fondamentale. C'est un argument dans le domaine du cancer qu'on étudie beaucoup en ce moment. Donc le relargage de ces vésicules extracellulaires, l'effet qu'elles vont avoir sur les cellules tumorales voisines. Et il y a vraiment tout un champ à explorer, donc c'est vraiment... à la pointe des nouvelles thérapies.
Pierre-Emmanuel Joubert, vous aussi, votre écoute?
Oui, alors c'est les travaux de recherche que je réalise en ce moment. Mm-hmm. Donc l'idée, c'est qu'on a bien vu que l'autophagie, dans la cellule, avait un rôle, favorise la survie, etc. L'idée, c'est de comprendre comment l'autophagie module également son micro-environnement, le micro-environnement tumoral, en l'occurrence. Et donc, on essaye de comprendre comment cette autophagie, en fait, modifie les messagers qui sont sécrétés, qui sont relargués par les tumeurs. Parce que la tumeur, c'est dans un micro-environnement, ça communique sans arrêt avec les autres cellules tumorales, avec les cellules immunitaires, avec d'autres cellules comme les fibroblastes. Et c'est extrêmement important pour le développement tumoral. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de développement tumoral. Et donc d'essayer de comprendre comment l'autophagie module ses voies en fait, de sécrétion, et comment finalement, en thérapie, on peut modifier ces voies, ces différentes routes qui permettent à la cellule tumorale de communiquer aux cellules de différentes façons.
Pour essayer de bloquer les voies de communication, tout simplement.
Ou les modifier. D'accord. Ou les modifier dans le sens où ces voies ne seront plus pro-tumorales, mais anti-tumorales.
Votre écoute, vous aussi, Flavie Strapazon. Voilà. Excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est normal, voilà, ça m'arrive, toutes mes excuses, Audrey Squatine.
Non, alors moi, ce que ça m'évoquait, c'est que, en fait, ça peut sembler bizarre. Depuis le début, on parle d'autophagie en disant que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de la cellule, et puis là, on parle d'une autophagie sécrétoire, et en fait, il faut imaginer que finalement, cette découverte de la machinerie autophagique, elle nous a permis de comprendre le processus autophagique, mais aussi de comprendre que les protéines sur lesquelles on travaillait, elles avaient aussi des fonctions. Alors, on ne sait plus si on parle réellement d'autophagie ou de processus autophagie ou de machinerie autophagique, mais ce qui est sûr, c'est que finalement, le devenir de l'autophagosome, ça peut être de fusionner avec le lysosome, mais ça peut être aussi de fusionner avec la membrane et d'être sécrété. Donc, c'est une façon non conventionnelle de sécréter certains composés. Donc on voit que finalement, en maniant ces protéines, donc au niveau de la recherche fondamentale, on a découvert qu'elles n'étaient pas limitées au processus autophagique, mais qu'elles intervenaient dans plein de mécanismes différents.
Alors, l'autophagie joue un rôle dans la chimio-résistance. Quelles conséquences ça a pour les thérapies antitumorales, Audrey Esclatine ?
Eh bien, justement, c'est ça. C'est que la chimiothérapie, son but, c'est de tuer des cellules cancéreuses. Or, on a dit que, en fait, c'était l'autophagie permet de résister à une forme de stress. Donc, c'est un stress ultime, en quelque sorte. Et donc, activer l'autophagie, c'est l'inverse de ce qu'on voudrait. Ça va entraîner la survie des cellules cancéreuses. Donc, il faut absolument limiter ça.
Donc ça veut dire qu'on peut imaginer, ça ouvre des pistes d'association d'un traitement antitumoral à un traitement anti-autophagique.
Oui, c'est ça. C'est qu'on va mélanger de la chimio avec un traitement qui va inhiber l'autophagie.
Flavie,
oui, juste pour préciser, effectivement, bloquer l'autophagie, ça a vraiment un intérêt en combinant avec la chimiothérapie, mais bloquer également la mitophagie. Donc de nouveau, l'autophagie sélective des mitochondries a un grand intérêt, puisque beaucoup d'agents... de chimiothérapie vont vraiment stimuler précisément la mitophagie. Les mitochondries, si elles sont renouvelées, eh bien, elles vont aider la cellule tumorale à survivre. Donc c'est vraiment important d'aller cette fois-ci accumuler des mitochondries endommagées dans les cellules cancéreuses pour provoquer leur mort cellulaire. Et puis pour leur peut-être aussi éviter qu'elles s'adaptent à un nouveau métabolisme, ce qui est le cas des cellules cancéreuses. Donc voilà, double effet.
Pierre-Emmanuel Joubert, vous souhaitiez réagir.
Oui, alors c'est vrai que l'inhibition de l'autophagie dans les cancers, c'est quelque chose qui est très attrayant en fait. On a déjà essayé de faire ça. Il y a une protéine notamment qui est très connue depuis le Covid-19, qui est l'hydroxychloroquine, qui est un inhibiteur du mécanisme d'autophagie. Donc on a essayé de traiter les cancers avec cette protéine. Et c'est là que les résultats ne sont pas si avantageux que ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le mécanisme d'autophagie, il n'est pas présent que dans les cancers. Il est présent aussi dans les cellules immunitaires qui sont dans le micro-environnement tumoral. Donc si on arrive avec une drogue comme ça qui va inhiber l'autophagie sur toutes les cellules, non, ce ne sont pas spécifiques, on va empêcher le système immunitaire d'agir. Et on sait que le système immunitaire, il est primordial pour le développement tumoral. Donc il faut vraiment essayer d'aller cibler l'inhibition de l'autophagie spécifiquement dans les cellules cancéreuses. Et c'est ça le challenge finalement. À venir, en fait. C'est ça qui est compliqué.
C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine, ça n'a pas été le remède miracle pendant le Covid, mais ce n'est pas non plus une piste thérapeutique si intéressante que ça dans notre cas, Audrey Esclatine.
Alors ça, je vais peut-être laisser Pierre-Emmanuel
Joubert
que moi...
Non, mais ce que je disais, effectivement, ça peut être une bonne protéine si on arrive à la cibler correctement dans les bonnes cellules. C'est-à-dire qu'il faut inhiber l'autophagie dans les cellules cancéreuses. Et ça, c'est un challenge... On n'arrive pas encore à spécifiquement cibler les cellules cancéreuses pour inhiber l'autophagie. Par contre, il y a d'autres pistes thérapeutiques qui, là, font complètement de mentalité inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'inhiber l'autophagie, on peut, au contraire, l'activer dans certains cas. Et il y a des thérapies, notamment, qui se penchent sur l'activation de cellules autophagiques dans des cellules mourantes dans les cancers. Il faut savoir que quand les cellules meurent, en fait, elles sont prises en charge par le système immunitaire, parce que notamment elles expriment des signaux, qu'on appelle des signaux mange-moi ou trouve-moi en fait, qui permet aux cellules immunitaires de reconnaître cette cellule mourante, de l'ingérer et de présenter effectivement des antigènes pour activer le système immunitaire. Et bien, il se trouve que lorsque les cellules tumorales meurent et qu'elles ont beaucoup d'autophagie, les signaux sont plus forts. Donc elles sont plus ce qu'on appelle immunogènes, c'est-à-dire qu'elles sont plus susceptibles d'induire la réponse immunitaire. Et donc là, l'idée ici, thérapeutique, ça serait d'activer à la fois la mort cellulaire et l'autophagie dans ces cellules mourantes pour favoriser justement l'essor du système immunitaire. Et à ce propos, si on fait le lien avec la relation avec les virus, il y a déjà des tests qui ont été faits. Notamment, il y a des virus qui sont des virus oncolytiques qui sont capables d'aller tuer les cellules tumorales. Eh bien, l'idée, c'est de modifier ces virus pour qu'en plus de tuer les cellules, elles permettent aussi une induction du processus autophagique permettant la mise en place de la réponse immunitaire antitumorale le plus efficacement possible.
Et en effet, c'est tout à fait l'objet de vos recherches actuelles, Pierre-Emmanuel Joubert. Ce lien, ce fonctionnement entre autophagie, virus et cancer, les trois ensemble. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, il est temps de retrouver la chronique Avec Science. On vous parle d'apnée du sommeil qui dérègle les cycles métaboliques. Et c'est la chronique d'Alexandre Morales.
Comment l'apnée du sommeil influence-t-elle notre horloge biologique ? L'apnée du sommeil, c'est une maladie très fréquente qui touche près d'un milliard de personnes dans le monde. Il s'agit en fait de pauses respiratoires nocturnes, des moments répétés au cours de la nuit où l'on cesse de respirer. On connaît mal les causes de cette pathologie-là, mais on sait que des facteurs la favorisent, comme l'obésité ou encore certaines anomalies morphologiques. Alors, cette baisse d'oxygène chronique a des conséquences sur l'organisme, elle augmente les risques cardiovasculaires et métaboliques, mais on ignorait jusqu'à présent la manière dont elle influence les rythmes biologiques. Une nouvelle publication parue dans la revue Science Advances s'est donc intéressée à cette question. Jonathan Gaucher, chercheur en chronobiologie au laboratoire hypoxie et physiopathologie de l'université Grenoble-Alpes, il est co-auteur de cette étude.
On est des animaux rythmiques. Et le rythme qui nous a intéressé, c'est vraiment les rythmes circadiens. Donc circadien, ça vient du latin circadiem, environ un jour. Donc c'est rythme de 24 heures qu'on connaît tous en fait avec nos cycles de veille et de sommeil, nos cycles alimentaires en fait. Et tout ça, c'est programmé par une horloge qui nous dicte quand on doit aller se coucher, quand on doit se lever, quand on doit manger. On n'a pas besoin d'une montre automatiquement, on est rythmé sur ce cycle circadien, ce cycle de 24 heures. Donc nous, on s'est intéressé à l'horloge biologique du foie, qui est un organe central dans le métabolisme. Il régule l'énergie, le stockage du sucre et de nombreux autres processus biologiques. Et le foie, en fait, qui fonctionne sur un rythme très précis de 24 heures, ce qui en fait une cible très sensible aux perturbations de l'horloge.
On l'a dit, les apnées du sommeil sont généralement liées à des comorbidités, donc pour bien comprendre les effets qui relèvent du manque d'oxygène, il a fallu produire des apnées artificielles sur des individus sains, et pour ça, on utilise des modèles animaux. Alors, pour mimer ces moments réguliers d'hypoxie nocturne, donc de manque d'oxygène, les scientifiques ont périodiquement, au cours de la nuit, fait baisser le taux d'oxygène présent dans les cages de souris. Ils ont ensuite recueilli le foie de ces animaux à différents moments de la journée pour l'étudier plus en détail. Ils ont analysé les métabolites, ça peut être les lipides ou les glucoses par exemple, mais les auteurs sont allés plus loin encore, ils ont regardé l'expression génétique des foies et les réactions physiologiques des souris grâce à des implants. De cette manière, ils ont pu suivre par exemple la glycémie, la température ou encore l'activité physique des souris, des paramètres qui varient au cours de la journée selon les cycles biologiques.
Notre foie fonctionne sur des rythmes très précis de 24 heures et nos résultats montrent que les épisodes répétés de manque d'oxygène pendant la nuit décalent en fait ces rythmes d'activité du métabolisme. Au niveau du métabolisme du glucose, par exemple, on voit un décalage de ce qu'on appelle la phase, c'est-à-dire normalement on a des pics de glycémie au moment des repas. Et on voit que ces pics sont complètement réorganisés à des moments où il n'y a pas forcément de repas. On voit que le foie augmente sa capacité à produire du glucose également. Et on voit que le foie est capable d'anticiper ces épisodes de manque d'oxygène et en augmentant sa capacité de production du glucose, sûrement pour alimenter en glucose l'organisme au moment de ces baisses d'oxygène.
Les chercheurs montrent que sous hypoxie, près d'un tiers des métabolites du foie acquièrent un nouveau rythme. L'apnée du sommeil entraîne donc un véritable décalage horaire de l'organisme. Et tout cela pourrait avoir des conséquences sur l'assimilation des médicaments. Vous l'aurez remarqué, la plupart des médicaments doivent être pris à des horaires précis pour être mieux traités par l'organisme. Alors, en s'adaptant au chronotype des personnes, on pourrait maximiser leurs effets. Comme le foie joue un rôle important dans la régulation des sucres et de la glycémie, cette découverte pourrait aussi permettre une meilleure prise en charge des diabétiques touchés par l'apnée du sommeil, par exemple. Et enfin, dans une perspective plus lointaine, on pourrait s'inspirer des sportifs de haut niveau qui utilisent parfois l'hypoxie pour améliorer leur performance. On peut imaginer provoquer des hypoxies contrôlées sur certains patients pour ajuster au mieux leur rythme biologique.
Merci Alexandre pour votre chronique. Merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. C'est à la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.